Radio Grand Ciel présente Tournepage, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. C'est avec plaisir que je reçois Christian Fourreau, directeur des affaires culturelles de Nogent-le-Rotrou, administrateur des Amis du Perche de Ré-Loire. Il aime beaucoup travailler sur les grandes figures du Perche et aujourd'hui, il vient évoquer pour nous deux personnages fort importants du Perche, Simon-Nicolas Henri Linguet et Perrine Buté, né poulet. Christian Fourreau, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, peut-être voulez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi ces deux personnages? Alors, je me doute un peu avec Perrine Buté, parce que c'était un commerce florissant dans le Perche et à Nogent-le-Rotrou en particulier, puisqu'elle est dans une famille d'étaminiers, c'est bien cela.
Tout à fait, oui, c'est vrai qu'elle est originaire de Tours, c'était des marchands à la base. Il y a un certain nombre de membres de la famille Buté qui vient s'installer à Nogent-le-Rotrou pour faire commerce d'étamines. Voilà. Et c'est vrai que vous avez raison de dire que c'était très florissant, parce que Nogent-le-Rotrou, au XVIIIe siècle, était une des places fortes de la production et de la vente d'étamines. Il y avait, on va dire, je pense, 4 lieux en France, dont Nogent-le-Rotrou.
Et alors ces étamines justement, qu'est-ce que c'était? Parlez-nous-en un petit peu, parce que nous connaissons tout ça par cœur, mais en fait c'est peut-être pas si connu que ça.
C'est vrai, c'est tout simplement de la toile. De laine, voilà, qui est tissée sur place à Nogent-le-Rotrou, voilà, et qui occupe énormément de personnes dans la population locale.
Oui, c'était très florissant.
Oui, très très florissant, parce qu'il y a Claude Cailly, pour citer quelqu'un qui a vraiment beaucoup travaillé dessus, qui estime que ça occupait la moitié de la population nogentaise. C'est-à-dire qu'il y avait environ 6000 habitants. Et on pense que, on va dire, avec les emplois directs des étamines et les emplois dérivés, comme on dit aujourd'hui, ça occupait la moitié de la population, parce qu'il y avait 480 métiers, c'est-à-dire qui produisaient des étamines. Mais il faut savoir qu'un métier, ça occupait environ 7 personnes, parce qu'il y avait des cardeurs, des dégraisseurs pour préparer la laine. Après, il y avait des peigneurs pour peigner la laine. Il y avait les teinturiers, les fabricants, les commerçants, etc. Donc, il y avait toute une chaîne de production. On peut pas dire que c'était une production industrielle. C'était une production artisanale, en fait, qui se faisait dans les foyers très souvent.
Oui.
Mais elle était très, très, très importante pour Nogent-le-Rotrou.
Oui, alors ça c'est une chose. Et alors les moutons, c'était les moutons aussi du Perche ou bien...
On peut supposer, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait c'était de la production qui venait sur régionale, voire au-delà. Quoi.
Oui. Alors cette Perrine Poulet, elle va donc, elle habite Tours.
Oui.
Et elle va rencontrer donc quelqu'un qui est dans cette branche-là.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, je pense, deux familles qui se connaissaient, puisque elle-même, elle était issue de fabricants d'ouvrages en soie, en lin, etc. Donc, c'était une production, on va dire, qui était très proche de celle dont s'occupait la famille Buté. Et ses parents étaient marchands aussi à Tours. Et je pense que les différentes rencontres familiales vont faire que l'un va être présenté à l'autre et ils vont se marier.
Voilà. Alors, elle est née en 1738, c'est ça?
Oui.
Et donc, elle va se marier en quelle année?
Écoutez, elle va se marier, je pense qu'elle
avait... Elle est très jeune.
Très jeune, je crois qu'elle a à peine 18 ans.
Oui, c'est ça.
Et
1755,
voilà.
Elle se marie, elle est très jeune. Et en fait, comment nos gens le retrouvent?
Eh bien, tout simplement parce que dans la famille Buté, il y avait un grand-oncle de son futur mari qui vient à Nogent-le-Rotrou. puisqu'ils profitent, il faut bien aussi placer les enfants, etc. Donc on les envoie là où il y a du travail, là où il y a du commerce.
Oui.
Donc il y a un grand-oncle qui s'appelle Jean Butet aussi, qui va venir à Nogent-le-Rotrou et qui viendra, donc appellera aussi en quelque sorte le futur mari de Perrine Poulet à venir le rejoindre à Nogent.
Donc elle se marie et elle vient habiter Nogent.
Oui.
C'est une famille qui est très riche.
Oui. Ça fait partie. Il faut savoir que les étabiniers, moi, les commerçants, ceux qui revendent des étabines, ça fait partie des familles les plus riches de Nogent-le-Rotrou. Dans la mémoire, on va dire en quelque sorte, ou dans l'histoire, il y a 4-5 grandes familles comme ça, qui sont les Guilliers, les Pinceloups, les Bessirard. Il y aura aussi les Butet. Et ce sont des gens qui vont acheter des biens immobiliers très importants. C'est-à-dire qu'on va dire qu'au cours du 18e siècle, il y a même une sorte de mutation des propriétés, pour le dire un peu rapidement. C'est-à-dire que, par exemple, le château de Montdoucet à Soincey va appartenir aux Guilliers, qui au départ n'étaient pas des nobles de grande lignée, on va dire, en quelque sorte, si on remonte dans le temps. C'est pareil pour le château de Maurice-sur à Coudresseau, qui va appartenir aux Pinceloup. Et pour les Butet, on pourra peut-être y revenir ultérieurement, mais les Butet, eh bien, le mari de Perrine achètera aussi un château. Lui, en Touraine, c'est sur sa base familiale, en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Et ce n'est pas n'importe quel château, puisque c'est une seigneurie.
Oui, c'est une très grosse seigneurie.
À sachet,
voilà. Il y a un château donc, qui comprend de nombreuses fermes, de nombreuses terres. Je crois qu'il y a deux ou trois manoirs aussi, même au sein de cette seigneurie-là aussi.
Donc, des gens qui sont dans le négoce textile à Tours et à Nogent-le-Rotrou.
Oui.
Et alors maintenant, j'en arrive à ce Simon-Nicolas Henri Linguet, qui lui aussi a une vie alors vraiment passionnante. Vraiment, grâce à lui, on revoit tout le XVIIIe siècle.
D'une certaine manière, oui, parce que c'est un personnage haut en couleur et qui va devenir célèbre. Il est oublié un peu aujourd'hui, mais il va fréquenter quand même les grands de ce monde pour une partie. Et puis, il est célèbre aussi par son caractère et sa fougue, d'une certaine manière.
Oui. Alors, chers auditeurs, je voudrais vous rappeler que ce Simon-Nicolas-Henri Linguet et cette Madame Butet, eh bien, vous pourrez non seulement lire dans les cahiers Percheron plus sur ces familles, mais encore, vous pourrez assister à une conférence. Alors, vous allez donner une conférence sur ces deux personnages à Nogent-le-Rotrou.
Oui, ce sera le jeudi 31 mars à 14h15 exactement au centre socioculturel.
Oui, au centre socioculturel qui se trouve
74 rue Gouverneur.
Voilà, donc maintenant que vous avez entendu un peu de quoi il s'agit, on va pouvoir, chers auditeurs, vous mettre en appétit pour aller écouter cette conférence et puis vous pourrez préparer vos questions pour Christian Faureau qui vraiment connaît le sujet très bien puisqu'il est en train de l'écrire pour le faire paraître dans les cahiers Percheron. Alors, je reviens à ce Simon-Nicolas-Henri Linguet. Il est né en 1736, c'est ça?
Exactement, 2 ans avant Perrine Poulet.
Voilà, ils ont à peu près le même âge, mais rien à voir.
Non, pour l'instant.
Pour l'instant, rien à voir. Donc, c'est un enfant, je crois, très, très brillant, très intelligent.
Oui, c'est quelqu'un qui est né à Reims, qui va passer l'équivalent du baccalauréat, qui aura 4 grands prix de l'université et qui envisagera même de faire une carrière d'ingénieur, d'une certaine manière. Et malheureusement, il ne va pas pouvoir la poursuivre pour des raisons sans doute financières, parce que la famille est un peu désargentée suite à des événements, on va dire, malheureux.
Oui, donc il va se lancer, il va partir.
C'est-à-dire comme c'est quand même quelqu'un de très intelligent, qui parle très bien, qui a une base de culture importante, il va se mettre au service de personnages importants.
Et vraiment de grands personnages.
Oui, parce qu'il y aura par exemple le duc de Deux-Ponts, qui est le duc de Bavière. Ça va pas durer très longtemps parce que là vont commencer le début de ses ennuis qui vont quand même durer un certain moment. Voilà, pour une sorte de brouille de cheval volé dont il est accusé par un des valets du duc de Pont. Donc il va se retourner en quelque sorte vers un autre personnage qui est le prince de Beauvau. Il va aller en Allemagne, puis après aux Pays-Bas, en Espagne ou encore au Portugal avec ce personnage-là, etc.
Donc il apprend l'espagnol.
On peut supposer qu'il en a au moins des bases, quoi, des connaissances à chaque fois, voilà, parce que c'est quelqu'un qui doit apprendre très très vite,
oui,
voilà,
parce
et qui est très intelligent.
Je crois qu'il a traduit Calderón et Lope de Vega.
Exactement, oui, il a fait plusieurs traductions.
Oui, donc il est quand même très fort en tout. Je crois que dès qu'il commence quelque chose...
On dirait aujourd'hui que c'est un surdoué, quoi, en quelque sorte.
C'est ça. Enfin, est-ce qu'il est entré à l'Académie française ?
Moi, de mémoire, pas du tout. Non, parce qu'il était trop sulfureux et il va s'attaquer d'ailleurs aux académiciens, ce qui va lui valoir quand même un certain nombre d'ennuis aussi.
Oui, parce qu'il était ami avec ce fameux Fréron qui était l'ennemi juré de Voltaire, c'est ça. Et donc, où va-t-il s'installer en revenant de ce voyage ?
Quand il en aura fini en quelque sorte de ses postes, qu'on peut dire qu'il était poste de secrétaire particulier de ces hauts personnages, en fait, il va reprendre des études d'avocat à Reims, voilà, et après il va s'installer à Paris.
Alors, c'est un élève brillant, est-ce que ça va être un avocat aussi brillant ?
Oui, c'est ça qui va faire sa réputation, parce qu'il va, comme il est brillant, il va défendre des personnages, on va dire, célèbres de l'époque. Le chevalier de la Barre, le duc d'Aiguillon, le comte de Morangiès, par exemple, ou encore la comtesse de Béthune, pour faire des liens un petit peu avec
Nogent-le-Rotrou,
d'une certaine
oui.
manière, puisque c'est la comtesse de Béthune, c'est une descendance, en quelque sorte, du duc de Sully, voilà.
Oui, donc tout ça, chers auditeurs, nous sommes très liés à Nogent-le-Rotrou.
Oui, on y retrouve toujours des liens.
Donc, il est vraiment très, très important, un avocat vraiment recherché. Il a des causes qu'il aime particulièrement. C'est quelqu'un de fougueux, de caustique. Et je pense qu'il va se faire des ennemis aussi.
Il va se faire beaucoup, beaucoup d'ennemis parce qu'il est très sarcastique aussi. C'est-à-dire que très souvent, il attaque, on va dire, bille en tête ses confrères. Et ce qui lui vaut quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis. Même si en même temps, il est très flamboyant.
Oui, alors, chers auditeurs, je ne résiste pas au plaisir de demander à Christian Faureau la réponse. Mais peut-être ne la donnera-t-il qu'à la fin. Parce que ses ennemis étaient vraiment très, très méchants. Il y a une charade qui courait. C'était « Mon premier sert à pendre. Mon second mène à pendre. Et mon tout est à pendre. » Alors, je vous réserve, chers auditeurs, cherchez, et Christian Faureau nous donnera la solution à la fin de notre entretien. Alors, toujours est-il que, puisque avocat, il ne peut pas tenir longtemps, qu'est-ce qu'il va faire ?
Après, en fait, oui, il va être frappé de mesures d'exil, etc., avec des suites à différentes affaires, et après, il va être suspendu.
Oui.
Parce que ses confrères vont réussir à le suspendre, à le faire suspendre, voilà. Et donc, il va devenir en quelque sorte journaliste. Il faut dire aussi qu'il avait pour autant pas quitté nécessairement les belles lettres. Il avait continué à publier quelques ouvrages comme ça de temps à autre. Mais après, il va s'y consacrer entièrement.
Et si je reviens à Madame Butet, en même temps, est-ce qu'elle reste continuellement à Nogent-le-Rotrou ?
En fait, c'est une femme qui a aussi une belle éducation. Je pense que c'est une femme qui aime être informée des nouveautés, etc. Elle se déplace souvent, elle va à Paris. Et c'est là, vraisemblablement, qu'elle va rencontrer Simon Linguet.
Alors, effectivement, cette femme, une femme très intelligente aussi, une femme de lettres qui connaît l'opéra, qui connaît beaucoup de choses, la poésie, elle va rencontrer ce Simon, Nicolas, Henri Linguet. Et alors, il va naître toute une histoire, histoire que vous allez nous raconter donc à Nogent-le-Rotrou. Rappelez-nous la date.
Donc, le 31 mars à 14h.
Le 31 mars à 14h. À l'université, donc, de Nogent-le-Rotrou. Eh bien, quand même, la réponse à notre charade.
Non, c'est tout simplement Linguet.
Le lin qui, pour le coup,
voilà.
Et le guet pour traverser. Et cet ennemi, c'était donc celui qu'il fallait pendre, Linguet. Voilà, merci infiniment, Christian Faureau.
Merci beaucoup.
Et à bientôt, j'espère.
Je vous en prie, merci encore.